En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je donne tout de suite la parole au bien au général Durieux.
Donc, général Benoît Durieux, donc je dirige le Centre des hautes études militaires. Pour ceux qui peut-être auraient une vision assez lointaine de ce que c'est que ce centre, c'est en réalité un centre de formation, plus exactement de préparation, d'un certain nombre d'officiers, donc pour des colonels qui ont en moyenne 45 ans, qui ont été sélectionnés et qui sont en principe destinés à occuper plus tard des responsabilités importantes et qui suivent une année de formation et de réflexion au sein de l'école militaire. C'est une formation qui se situe en moyenne une douzaine d'années après l'école de guerre dans le cursus des officiers. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci de cette invitation pour un débat qui s'annonce, je pense, extrêmement stimulant sur un sujet qui, au fond, quand vous me l'avez soumis initialement, j'ai accepté, mais après, quand je me suis replongé dessus, j'ai eu un moment de perplexité parce que je crois qu'au début, d'ailleurs, ça s'appelait on m'avait parlé des contraintes des milieux naturels, de la Terre. Bon, en réalité, c'est pas une question qui se pose généralement, et généralement, c'est vrai qu'on envisage souvent, d'ailleurs, la guerre comme naturellement à terre, et on réfléchit souvent sur la guerre sur la guerre navale ou sur la guerre aérienne, d'ailleurs, par référence au milieu terrestre. Souvent, quand on réfléchit sur la guerre aérienne ou la guerre navale, on réfléchit sur ce qui la distingue du milieu terrestre pour souligner la singularité de ces deux milieux, leurs contraintes ou les opportunités qu'elles peuvent procurer. Et finalement, ça m'a donné l'idée d'adopter une méthode peut-être un peu moins usuelle, mais symétrique, pour réfléchir inversement sur ce qui caractérise le milieu terrestre pour faire la guerre par rapport aux deux autres milieux. C'est pas finalement quelque chose d'assez naturel, parce que la guerre, surtout en Europe et en particulier en France, elle est tellement associée à la terre que c'est un peu comme si on essaye d'évaluer le goût des aliments par rapport à l'eau, qui paraît complètement neutre. Et puis il y a un autre phénomène qui s'est développé dans les dernières décennies, c'est que, avec l'impact, je pense, de la technologie, on a souvent envisagé le milieu terrestre sous l'angle des contraintes et des obstacles qu'il pouvait constituer, précisément pour la technologie. Je pense que toutes les théories autour de la révolution des affaires militaires sont un petit peu liées à cette façon de penser. Un peu de la même façon, il y a eu une théorie extrêmement stimulante qui a été développée en France ces dernières années, notamment par Laurent Inninger, sur les espaces solides et les espaces fluides, pour montrer que les espaces fluides étaient favorables au réseau, au déploiement de la technologie, et que leur maîtrise permettait l'accroissement de la puissance qui est l'objectif de la stratégie, selon Lawrence Friedman. Mais précisément, ces théories, à mon sens, présentent une difficulté parce qu'elles présupposent que, de manière plus ou moins implicite, que l'objectif de la guerre, c'est précisément la puissance. Et je pense que c'est au minimum un raccourci qu'il faut interroger. Je pense que l'analyse de la guerre sur Terre montre que ce n'est pas le cas, et qu'il y a un lien quand même extrêmement étroit, et que la guerre, c'est pas nécessairement, au départ, la recherche de la puissance. Alors, je voudrais essayer de réfléchir avec vous, et en me soumettant à vos observations, parce que je serai extrêmement intéressé par vos réflexions aux uns et aux autres, sur la guerre sur Terre, d'abord en partant de ses origines, en quoi la Terre est aux origines de la guerre. Ensuite, sur ses modalités, comment on fait, en quoi consiste finalement, notamment si on la compare à ce qui se passe dans les deux autres milieux physiques traditionnellement reconnus, l'air et la mer. Donc, quelles sont les modalités de la guerre sur Terre? Et enfin, dans une troisième partie, quels sont ses principes? Non pas au sens, je dirais, tactique, des principes de la tactique, mais les principes au sens, finalement, fondement. Alors, la Terre aux origines de la guerre. Je pense qu'il y a une caractéristique fondamentale du milieu terrestre qui est déterminant pour notre compréhension du phénomène de la guerre, c'est tout simplement le phénomène de la possibilité, voire de la quasi-permanence, de l'immobilité de l'homme quand il est sur la Terre, ce qui le distingue évidemment très clairement de tout ce qui peut se passer dans les deux autres milieux. Sur Terre, l'homme, au départ, est immobile. Il peut rester immobile et surtout, on dit souvent, l'homme peut vivre sur Terre. Oui, il peut vivre, non seulement il peut vivre, mais en réalité, il doit vivre sur Terre. Ce qui est, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Et alors, il y a deux... je voudrais mettre en évidence deux rapports, deux façons d'envisager cette immobilité. D'abord, il y a le rapport au temps. L'immobilité qui se prolonge, et ceci crée évidemment le droit. Ceci crée le droit parce que une autre caractéristique du milieu terrestre, c'est que c'est un milieu qui est découpé et qui se prête assez facilement à la délimitation de zones distinctes. Elles peuvent être complètement au départ naturelles, les lignes du terrain, les fleuves, les montagnes, mais elles peuvent être aussi construites par l'homme. En tout cas, cette délimitation des zones permet à l'homme, lorsqu'il est combiné avec cette caractéristique de l'immobilité, ça permet d'y vivre en groupe et finalement de définir des règles. Le droit est ainsi en partie issu de la relation de l'homme au territoire. C'est ce que Carl Schmitt, dans son ouvrage « Le nomos de la Terre », appelle la prise de terre. Il dit « Toutes les réglementations tirent leur force de la mesure interne d'un acte constituant original qui ordonne l'espace. Cet acte original est le nomos. » Et il poursuit « La terre porte des haies et des clôtures, car les localisations et les ordres de la vie en société se voient au grand jour. » La terre est triplement liée au droit, elle le porte en elle comme rétribution du travail, elle le manifeste à sa surface comme limite établie, et elle le porte sur elle comme signe public de l'ordre. Et par contraste, il explique que la mer ne connaît pas de telle unité évidente entre espace et droit, entre ordre et localisation, la mer est libre, en haute mer il n'y a ni barrière, ni frontière, ni lieu consacré, ni droit, ni propriété. Donc je pense que là il y a un premier élément important qui est que la terre, au départ, crée le droit. Deuxième élément, le rapport de l'immobilité à l'espace. Le fait de ces différentes... sur Terre, il y a possibilité d'une proximité, la proximité entre des groupes humains. Ça rend la guerre possible, cette proximité, parce que la proximité, elle met les hommes au contact. Et donc... ça rend la guerre possible, voire ça la favorise. Thucydide disait la guerre, c'est la peur, l'honneur, l'intérêt. Ça provoque la guerre. Mais la proximité territoriale, ça la rend possible. Et conjuguée avec l'immobilité, ça rend cette proximité durable. Et là, ça a un impact extrêmement important sur ce que c'est que la guerre. La guerre sur Terre, c'est en général une modalité de la relation. Ça ne consiste pas, à mon sens, à détruire un adversaire. La guerre sur Terre, c'est une modalité de la relation. Et donc, le phénomène de la guerre sur Terre, c'est un phénomène qui est toujours quelque chose de, en réalité, limité. D'abord parce que, comme la proximité entre les groupes humains est durable, et que l'hostilité est un risque permanent, il faut maîtriser cette agressivité pour permettre de vivre, tout simplement. Deuxième point extrêmement important, c'est parce que sur Terre, il y a nécessairement dans les groupes humains des gens qui sont au contact, à la frontière, qui sont dans les armées, dans les groupes combattants. Et puis, il y a des gens qui sont derrière. Tout le monde ne se bat pas et il faut nécessairement limiter les effets de la guerre à une partie de la société. Et troisième élément extrêmement important également, c'est parce que, en dépit de cette proximité qui va durer, après la guerre, fait qu'il faudra vivre ensemble après la guerre. Et donc, c'est ce qui fait que la guerre sur Terre est fondamentalement un élément de politique, c'est-à-dire de relation entre les hommes et entre des groupes humains. Je voudrais citer ici, cette proximité entre les groupes humains, elle a un caractère, et cet effet de la guerre, il a un caractère irréversible. Moi, j'ai toujours été très frappé par ces mots d'Anna Arendt qui explique « Même la rencontre la plus inamicale entre les hommes laisse subsister quelque chose qui leur est désormais commun. Chez les Romains, le même combat devint l'élément leur permettant ainsi qu'à leurs partenaires de se reconnaître. Lorsque le combat était terminé, ils ne se repliaient pas sur eux-mêmes et sur leur gloire, entre les murs de leur ville, mais ils avaient conquis quelque chose de nouveau, un nouveau domaine politique qui était garanti par un pacte et grâce auquel les ennemis d'hier devenaient les alliés de demain. » Donc la guerre sur Terre, ça construit quelque chose de définitif, quelque chose de durable. Carl Schmitt, sur cette question de limitation de la guerre, dit « L'essence des guerres, selon le droit des gens européens, et pour lui c'était sur Terre, consistait à mesurer ses forces d'une manière ordonnée, devant des témoins et dans un espace circonscrit. » Donc, voilà, la guerre, ça s'inscrit dans une relation de proximité. Je vais quitter un peu le champ de la spéculation intellectuelle pour faire appel à mon expérience. Je pense que ce qui est extrêmement frappant, c'est que dans les opérations auxquelles j'ai pu participer, il y a nécessairement une relation de proximité durable et de connaissance relativement intime, ou en tout cas humaine, de son adversaire. On se tire dessus, c'était le cas pour ma part, surtout en Bosnie, et puis ensuite notamment en Afghanistan, mais vous savez qui vous avez en face de vous. Vous savez, vous êtes regardé, comme l'indiquait Anna Arendt, d'une façon, vous êtes regardé, vous avez des gens en face de vous, et vous savez que ça va s'inscrire dans la durée. Donc il y a une relation politique qui est à la fois faite d'échanges de violence, et j'y reviendrai, mais aussi d'une forme de proximité. Donc, de ce point de vue-là, la guerre sur Terre, le concept fondamental à mes yeux d'immobilité, à la fois dans son rapport au temps et dans son rapport à l'espace, donc qui se traduit par la proximité durable de groupes organisés. Alors, quelles sont les modalités maintenant de la guerre sur Terre ? D'abord, je voudrais réfléchir avec vous sur la façon dont précisément l'action de guerre peut contribuer à atteindre un objectif politique. Quel est l'objectif de la guerre en général et quel est l'objectif de la guerre sur Terre ? Je crois qu'il y a, c'est assez intéressant d'y réfléchir, et de ce point de vue-là, ce sera intéressant d'avoir les éclairages. Dommage que Martin ne soit pas encore arrivé, mais de vous tous, de toute façon, il y a, je pense, un peu dans chaque milieu une réponse non pas unique, mais je dirais privilégiée à cette question. Il me semble que dans le domaine maritime, c'est avant tout l'action sur l'économie. Carl Schmitt, encore lui, disait « Le navire de guerre coule, la guerre sur mer reste une guerre commerciale et économique, la guerre navale ne connaît pas la pure égalité tout à fait conséquente de la guerre opposant des États européens, pirates privés, corsaires. » Et il disait aussi « La mer est un espace libre de pillage libre. » Donc, le fait, l'action de la guerre sur mer sur l'économie me paraît tout à fait centrale. Dans le domaine aérien, ce qui est probablement central, c'est la capacité à infliger des dommages, ce que Thomas Schelling appelait capacité à infliger à l'ennemi d'énormes souffrances, dans le concept un peu de coercition. Et là encore, je voudrais faire référence à Carl Schmitt qui disait « Le bombardement aérien n'a pour sens et finalité que l'anéantissement. La guerre aérienne n'est pas une guerre de butin, donc par différence avec la guerre sur mer, mais une guerre d'anéantissement. » Voilà. Alors, quel est par contraste, ou mais même sans faire référence à ces deux autres milieux, de toute façon, quel est l'objectif central de la guerre sur Terre? Je pense que dans la guerre sur Terre, l'objet central, l'objectif générique, c'est évidemment le territoire. Et là, je ferai référence à Clausewitz qui explique qu'il y a deux, vous le savez, il y a deux types de guerre, il y a deux objectifs possibles donc dans la guerre. Soit quand l'objectif consistant à terrasser l'ennemi, ce qui est le premier type de guerre qui va, un objectif d'anéantissement, mais qui est en fait historiquement extrêmement rare, l'objectif de l'acte militaire ne peut être que de deux sortes, soit la conquête de quelques portions réduites ou moyennes du territoire ennemi, soit la sauvegarde de son propre territoire dans l'attente d'un moment plus propice. Donc de toute façon, un objectif territorial. Voilà, donc je vais continuer, mais je disais à l'instant que les objectifs, chaque milieu physique probablement était lié à un objectif privilégié de l'action militaire, et je disais que peut-être, mais sous le contrôle étroit de Martin, que dans le domaine maritime, c'est l'action sur l'économie qui me paraissait importante et finalement centrale. Que la guerre sur mer restait une guerre commerciale et économique, et que dans le domaine aérien, c'était le concept d'infliger des dommages, d'anéantissement, qui finalement donnait son prix, ou en tout cas expliquait la logique interne de l'action aérienne. Alors, à partir de là, comment ça se passe ? Il y a un deuxième point qui me paraît central de la guerre sur Terre, c'est peut-être, à partir du moment où le territoire est là un aspect central, c'est peut-être le fait que la défense, le mode de la défense, est caractéristique de la guerre sur Terre, et on pourra en discuter, est-ce que c'est exclusif ou pas. En tout cas, Clausewitz dit « la défense vise à conserver le territoire ». Qu'est-ce que le concept de défense ? Paraît un choc. Quelle en est la caractéristique ? L'attente de ce choc, que vise la défense conservée. Et il explique aussi que la défense, vous le savez, définit la guerre parce que la défense commence la guerre. Lorsqu'il y a un affrontement de forces opposées, l'attaquant est toujours, il l'explique très bien, est toujours un ami de la paix et voudrait en fait pouvoir s'emparer du territoire sans tirer un coup de feu. Et donc c'est bien le défenseur qui, lui, va s'y opposer. Et donc va, je dirais, entamer les hostilités pour s'y opposer. Donc c'est la défense qui définit la guerre, ce qui prouve bien son lien étroit avec la guerre. Et là, je me situe dans le monde terrestre. Alors, au-delà du fait qu'en plus, la défense entretient évidemment un lien extrêmement étroit avec le territoire, parce que le terrain est aussi un instrument de la défense. Elle peut masquer, le terrain peut masquer, peut protéger, peut être organisé. Ça se distingue probablement là aussi des deux autres milieux où, me semble-t-il, dans le domaine naval, la défense a moins de sens, et dans le domaine aérien, j'y ai moins réfléchi. Je serais intéressé d'avoir votre avis. Mais il me semble que le domaine aérien porte en lui l'attaque beaucoup plus que la défense. Et Laurent Henninger écrit d'ailleurs, dans les espaces fluides, d'un point de vue militaire, l'attaque y est équivalente à la défense et se confond avec elle, au contraire de ce que l'on observe dans les espaces solides. Donc je pense que dans le domaine terrestre, la défense est un concept absolument central qui est lié avec cet objectif cardinal qui est celui du territoire. Alors, donc les modalités, l'objectif, la guerre sur Terre, l'objectif c'est le territoire. Et la modalité préférentielle, ou en tout cas ce qui caractérise la guerre sur Terre, c'est la défense. À partir de là, quels sont les principes de cette guerre ? Je voudrais poursuivre avec vous en réfléchissant sur les concepts d'attaque et de défense. Parce que si c'est la défense qui commence la guerre, elle le fait bien avec un coup et donc, d'une certaine façon, en attaquant. Quand écoutons Clausewitz, qui est un des seuls auteurs que je connaisse qui a réfléchi sur cette distinction fondamentale de l'attaque et de la défense, il dit « Qu'est-ce que le concept de défense ? Par un choc, j'en ai déjà parlé. Quelle en est la caractéristique latente de ce choc ? Mais pour faire vraiment la guerre, il faut rendre à l'ennemi les coups qu'il donne. L'action offensive menée dans le cadre d'une guerre défensive recevra l'appellation de défensive. » Et inversement, il dit « L'attaque de même n'est pas une totalité homogène, mais un mixte permanent qui intègre la défense. » Mais il y a une différence. Sans contre-attaque, la défense est impensable. Il n'en va pas de même pour l'attaque. Le choc, l'attaque qui consiste à attaquer, est un concept qui se suffit à lui-même. En lui-même, il n'a pas besoin d'inclure le concept de défense. Mais pourtant, quelques lignes plus loin, il dit « À la guerre, l'acte qui consiste à attaquer est un aller-retour constant, une combinaison d'attaque et de défense. » Ainsi, on voit bien que la défense ne s'oppose pas, et ça il le dit d'ailleurs aussi, n'est pas symétrique de l'attaque, ne s'oppose pas absolument à l'attaque, que les deux concepts s'interpénètrent, sont étroitement liés. Alors, je pense qu'il est intéressant d'essayer de réfléchir à cette difficulté théorique. Je voudrais faire d'abord une remarque. Il me semble que chez Clausewitz, comme chez les auteurs de cette époque, l'attaque semble recouvrer, amalgamer deux idées, celle de mouvement, la charge de cavalerie, mais aussi celle de coup. Et c'est sans doute lié à la guerre du XVIIIe siècle où il y a la manœuvre, le choc et le feu. Mais l'attaque, typiquement, la charge de cavalerie, elle est liée au choc. Et en fait, d'une certaine façon, l'escadron de cavalerie qui charge, c'est un peu une sorte de projectile humain qui se précipite sur l'adversaire. Alors, pour résoudre cette question, ce qu'il me semble, c'est que sur Terre, au moins, plus qu'une dialectique de l'attaque et de la défense, il me semble qu'il y a une dialectique de ce qu'on pourrait appeler une dialectique de la présence et de la violence. Il y a deux concepts différents. Il y a d'abord la présence, c'est-à-dire une présence manifestée, le fait d'être là de manière ostensible, ouverte, sur un territoire, sur un espace circonscrit, en face de l'autre. Ça me paraît un élément extrêmement important. Et puis il y a un deuxième concept, une deuxième composante de toute guerre, qui est l'usage effectif des armes, qui est celui de l'usage effectif de la violence. Si on revient d'abord très rapidement sur les concepts d'attaque et de défense, on voit bien que l'attaque et la défense sont chacun des deux, d'une certaine façon, deux combinaisons différentes de ces deux concepts. La défense, c'est la présence affirmée sur un espace qui nous appartient, et ensuite l'usage de la violence contre celui qui veut s'en emparer. L'attaque terrestre, l'attaque, de manière générale, c'est l'usage de la violence, et puis dans certains cas, ça peut être le fait d'essayer d'affirmer sa présence, mais sur un territoire qui ne vous appartient pas. Alors, je pense que c'est intéressant de réfléchir sur ces questions, parce que la présence manifestée, ça explique, à mon avis, ce que dit Clausewitz sur la force intrinsèquement supérieure de la défense. Il définit ça surtout en disant que la défense, elle a le temps de se préparer, elle a le temps de tirer parti du terrain, elle connaît le terrain. Moi, je serais tenté d'aller plus loin en expliquant que l'intérêt de la présence, de cette présence manifestée, c'est que cela met, en fait, à supposer qu'elle subsiste, cela met en échec la violence adverse, et cela permet de manifester la force de sa propre détermination. C'est lié très clairement au concept d'immobilité que j'évoquais au début. Cela permet, puisqu'elle s'inscrit dans le temps, la défense, à l'autre, à l'adversaire, de réfléchir. Or, la politique, ça consiste finalement à faire réfléchir, donc ça s'inscrit nécessairement dans le temps. Ça consiste à permettre à l'adversaire d'infléchir sa volonté, donc de réfléchir et ensuite de changer d'avis. Donc la présence, elle est essentielle d'une certaine façon, c'est le principe actif. La violence, elle sert précisément à empêcher l'autre d'affirmer sa présence. Mais elle est à double tranchant, parce que si elle échoue, elle révèle au grand jour la détermination de l'adversaire, et elle nous oblige, si on a utilisé la violence, à reconnaître finalement qu'on a perdu. Au-delà de ça, quand on utilise la présence manifestée face à un adversaire, le niveau de violence qu'on va soi-même employer, d'une certaine façon, par une sorte de principe naturel de légitime défense, il explique aussi ce qu'on est prêt à subir. Donc il explique aussi la force de notre détermination. On se rapproche peut-être d'une certaine façon de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Au fond, je pense que l'affrontement guerrier sur Terre, au minimum, c'est toujours, dans tous les cas, une dialectique de la présence et de la violence. Si la guerre sur Terre, c'était uniquement la dialectique des violences, c'est-à-dire si ça consistait uniquement à détruire l'adversaire, la question serait vite réglée depuis très longtemps. D'ailleurs, il suffit d'employer l'arme nucléaire et puis on détruit l'adversaire, c'est tout. En réalité, bien sûr, ça ne suffit pas. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est que la guerre est une dialectique de la présence et de la violence. Celui qui gagne, c'est celui qui réussit à affirmer sa présence sur un territoire donné en dépit de la violence adverse, plus longtemps que l'autre. D'une façon, ça éclaire aussi le concept de puissance de Raymond Aron, qui disait « la puissance n'est pas un absolu, mais une relation humaine ». Alors si on fait une sorte de conclusion un petit peu avant d'en venir à quelques exemples, la guerre sur Terre, c'est pas le domaine du mouvement, c'est le domaine de l'immobilité, c'est pas le domaine de l'attaque, c'est celui de la défense, c'est pas celui de la rapidité, c'est celui du temps long. Et c'est un domaine qui donne, dont le principe véritablement actif est celui de la présence, la violence n'ayant d'effet que si elle a... Elle est indispensable, mais elle a des faits comme un bras de levier que si elle peut s'appuyer sur une forme de présence. Alors, quelques exemples pour illustrer ces concepts un petit peu théoriques. Si on réfléchit, et on est bien amené à le faire en ce moment, sur ce que c'est que le terrorisme, il me semble que c'est un exemple de guerre sans présence, qui vise à agir sans présence. Et à mes yeux, ça explique pourquoi, de toute façon, il est inefficace ou au minimum qu'il a un rendement quasi nul. Inversement, si on prend un exemple d'actualité, on en parle beaucoup dans les médias, l'opération Sentinelle ou Vigipirate, ces militaires qui sont déployés devant des sites sensibles ou qui patrouillent ostensiblement, c'est clairement un exemple d'une opération fondée sur en réalité la présence. Dire voilà, on est là face à la violence précisément, on est là, on incarne la souveraineté nationale. Et on ne bougera pas. À l'autre extrémité du spectre, je pense que d'une certaine façon, les manifestations non violentes sous l'inspiration de Gandhi et d'autres, c'est la tentative d'exprimer, d'agir politiquement dans une situation conflictuelle par la pure présence. Je pense que ça a des limites, parce qu'à partir du moment où vous refusez d'utiliser la violence, vous refusez à l'autre de l'utiliser aussi, en tout cas c'est l'idée, et à partir de là, vous refusez à l'autre la possibilité de vous permettre de manifester votre propre détermination. J'ai réfléchi sur la guerre sur Terre. Est-ce que ça, on peut imaginer que ça puisse aussi avoir des applications? Et là, je, je, je serais heureux de vos réactions, mais dans la guerre dans les airs, par exemple, je pense que c'est une guerre qui recourt, surtout, puisque c'est l'anéantissement, surtout la violence, mais on peut certainement imaginer que ça recourt aussi à la présence, le concept de défense aérienne, de défense d'un espace aérien par une présence aérienne continue, est un exemple de présence. La guerre navale, à mon sens, est une guerre qui, au niveau tactique, en tout cas, a surtout recours à des échanges de violence, mais au niveau stratégique, la présence navale, ça a évidemment un sens. En revanche, le nucléaire, c'est, à mon sens, une pure violence, mais comme elle se situe non pas au niveau d'une armée, mais au niveau d'un État, d'un pays tout entier, elle exprime aussi la détermination d'un État à pérenniser sa présence en tant qu'État et de société et pays vivant dans la communauté des États. Une autre réflexion sur le plus actuel, on parle beaucoup de l'automatisation de la guerre. Je pense que cette automatisation a des limites parce que, précisément, elle n'a trait qu'à l'exercice de la violence et pas de la présence. Parce que vous pouvez mettre un robot en face de quelqu'un, vous ne manifestez rien du tout comme présence, comme détermination. On peut aussi, j'ai pas la développer parce que je pense que j'arrive peut-être au bout du temps, mais d'ailleurs les théories du général Jean-Loup Francard, dans un ouvrage qui s'appelait Maîtriser la violence et qui expliquait que, alors lui il se situait dans le cas assez précis à l'époque de la guerre dans les Balkans, mais où il disait que finalement, ce qu'il fallait arriver à faire, c'est à maîtriser les espaces. Alors lui, il allait au-delà, puisqu'il fallait maîtriser aussi l'espace électromagnétique, l'espace cyber, etc., mais aussi l'espace terrestre. Dernier point, quelles leçons pratiques on peut éventuellement tirer de tout ça ? Bien, moi, je suis assez convaincu, en y réfléchissant, que finalement, l'objectif militaire qui est à même de donner des résultats politiques et qui fonctionne, c'est un objectif territorial, au moins s'agissant de la guerre sur Terre, mais c'est la leçon que j'avais tirée, par exemple, de la Bosnie. Moi, j'ai fait deux missions en Bosnie. J'en ai fait une dans le cadre de l'ONU, où tout était entremêlé, et ensuite, l'année d'après, dans le cadre de l'OTAN, où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'OTAN avait pour mission, en réalité, de faire respecter une zone de non-confrontation de quelques kilomètres qui séparait les zones serbes et bosniaques, et donc d'interdire le franchissement de cette zone. Et finalement, c'est ça qui a donné des résultats. L'opération Serval, c'est une opération à objectif territorial. Et quand on perd ça de vue, je pense que ça devient beaucoup plus difficile. Deuxième point, la violence vient toujours en appui d'une présence. Et dernier point, ça nous fait aussi toucher du doigt l'importance, en réalité fondamentale, des frontières. Voilà, j'arrive au terme de ma réflexion sur les spécificités de l'espace terrestre, du milieu terrestre au regard de la guerre, qui est pas seulement une contrainte, mais en réalité une relation extrêmement intime entre ces deux espaces, entre la Terre et la guerre. Merci beaucoup.
Merci à vous, mon général. Je constate que vous avez la tête philosophique, ce dont je vous félicite. Et au cœur de votre propos, il y a tout de même le concept de territorialité. Enfin, on ne peut que tomber d'accord avec vous. Il y a un point, Dieu sait si je suis un admirateur de Clausewitz, qui a toujours raison, à mon avis. Et en particulier, la dissymétrie entre l'attaque et la défense est essentiel et tout à fait central. Mais si on s'élève à un point de vue qui envisage les millénaires, la conséquence la plus évidente de la guerre, c'est la coalescence politique, c'est-à-dire le fait que les territoires maîtrisés par un droit ou par un pouvoir sont de plus en plus étendus, avec comme attracteur final simplement une politique planétaire, si vous voulez. C'est pas une prédiction, si vous voulez, c'est la fin logique. Autrement dit, c'est l'attaque qui a fini par gagner, toujours, à l'échelle des millénaires, et pas la défense. Qu'est-ce qu'en pensez-vous ?
D'abord, est-ce qu'à l'échelle des millénaires, les espaces politiques ont tendance à s'accroître ? Peut-être, mais moi, ce que j'avais constaté, par exemple, dans toutes les zones actuellement en conflit qu'on observe, en réalité, on observe des sortes de micro-souverainetés sur des micro-territoires. C'était vraiment le cas en Afghanistan. Il me semble que c'est en réalité le cas aujourd'hui au Proche-Moyen-Orient. C'est le cas en Syrie. On voit que, à mon avis, on assiste à un phénomène de parcellisation à la fois de la violence, de parcellisation de la politique, de parcellisation des territoires, dans une sorte de reconfiguration. Alors ensuite, est-ce que l'attaque finit par gagner? L'attaque, oui, peut-être, mais pas la violence. C'est-à-dire que l'attaque, elle est fondamentalement, elle dépend d'une part de présence, de sentiment, de l'autre d'ailleurs, que sa propre souveraineté, sa présence collective, donc sa force politique et militaire est supérieure. Et c'est ça qui va amener l'autre à céder. Donc c'est pour ça en effet que le concept défendu par Clausewitz sur la force intrinsèquement supérieure de la défense, il s'explique au niveau tactique. Et ensuite, c'est pour ça que moi, j'ai, en réfléchissant à ça, je pense que ce qui est fondamental, c'est non pas la force intrinsèquement supérieure de la défense, mais le principe actif fondamental et unique de la présence plutôt que de la défense.
Qui va intervenir, là? Monsieur de l'Espinois, oui.
Alors... Bon, c'est très intéressant. On voit qu'on peut te donner n'importe quel sujet. Tu finis toujours par t'en tirer très honorablement. Alors, sur les différences, je laisse Martin ou Emmanuel intervenir sur les questions navales avec toute leur autorité. Alors, si mes souvenirs sont bons, Carl Schmitt définit la guerre aérienne comme une guerre de destruction essentiellement, et puis la guerre navale comme une guerre de contre le commerce, une guerre de prise, une guerre de butin. On peut avoir, et donc il n'y a pas ce lien avec la population, il n'y a pas un lien de protection avec la population. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Tu as cité l'exemple de la protection de l'espace aérien. On peut voir aussi dans la période contemporaine ce qu'on a pu voir en Libye, ce dont il a été question au Soudan ou en Syrie, ces no-fly zones qui visent à protéger les populations. Donc là où il y a un lien aussi de protection, même si c'est un lien qui est plus distant du fait de la technologie, mais on trouve ce même lien. Et puis, en ce qui concerne la défense et l'attaque, on a quand même le superbe exemple de la bataille d'Angleterre, que je ne vais pas raconter par le menu, où c'est la seule, on va dire, ou la plus grande bataille aérienne, où c'est la victoire de la défense sur l'offensive. Et donc, je pense que c'est vrai que ces milieux ouverts que Dorninger parle très très bien favorisent l'offensive, mais au point de vue tactique. Et je pense qu'au point de vue stratégique, Clausewitz est toujours est valable, et que quand il parle de la supériorité de la défensive sur l'offensive. Voilà, je ne veux pas être trop long pour laisser la parole à Martin Emmanuel, par exemple.
J'avais juste une toute petite remarque à propos de l'extension, entre guillemets, infinie, voire mondiale, de l'attaque. Oui et non. Comme les territoires globaux n'ont pas augmenté, c'est forcément qu'il y en a qui en ont gagné et d'autres qui ont perdu. Et si on se réfère à ce qui est communément admis, sans rentrer dans les détails, pour les deux guerres mondiales, on va dire que ce sont les empires centraux qui ont déclaré la guerre. In fine, c'est eux qui ont perdu. Dire que le gagnant s'étende, ça me semble couler de source. Était-il attaquant ou attaqué, c'est beaucoup plus... Était-il attaquant ou défenseur, à mon avis, c'est beaucoup plus incertain.
C'est pas... Je ne plaiderai pas mon point de vue. C'était une simple remarque. Je ne plaiderai pas jusqu'à la mort. Mais le fait est que la coalescence est une réalité. Et non, il ne faut pas oublier que Clausewitz, enfin, et vous aussi, messieurs les militaires, et beaucoup d'historiens, de philosophes et de sociologues, ont réfléchi sur la guerre en Europe. Et la guerre en Europe depuis, disons, le tournant des 14e et 15e siècles. Or, c'est un cas très particulier à l'échelle planétaire. Et on ne trouve pas la même chose en Asie antérieure, en Chine, en Inde, on verra ça demain, et je suppose dans les Amériques. Enfin, je pense que c'est pas décisif, si vous voulez, mais il y a différents points de vue, si vous voulez, et surtout il y a différentes échelles. Vous avez fait allusion au temps, à l'espace, il y a des échelles de temps et des échelles d'espace aussi. Donc c'est important d'en tenir compte.
À dire que si on raisonne à l'échelle des, peut-être pas des millénaires, mais en tout cas des deux millénaires écoulés, le principe de coalescence est battu en brèche par la formule « tout empire périra » quand même. Et on a plus l'impression que c'est cyclique et que les empires se dissolvent, se recomposent, etc., plutôt que d'un mouvement comme ça qui serait... Et ce qui est très clair, alors là, c'est à l'échelle du siècle écoulé, c'est quand même qu'au contraire, on a une explosion du nombre d'États.
Poursuivons pas, mais la Chine existe, l'Inde existe, le Brésil existe, enfin bon, les États-Unis existent, enfin bon, c'est tout de même. Alors, les empires se décomposent, nous sommes d'accord, parce que tout simplement, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Enfin, ils ne peuvent pas ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Mais ils ont une tendance fâcheuse à se recomposer périodiquement. Alors cette fois-ci, à l'échelle des siècles et pas des millénaires. Et nous avons en tête l'Empire romain, l'Empire latin qui ne s'est pas recomposé. C'est ça la question historique essentielle. Pourquoi Charlemagne a échoué, pour simplifier? Mais c'est une exception. Enfin, c'est une autre question. Peut-être demain, on pourra y revenir, demain matin.